Vivante Église, reportage. Avec Marie-Pierre Pavlak.
Cinquième rencontre,
oui.
Déjà cinquième, et en même temps, c'est pas fini. Enfin, la cinquième, la sixième, la relecture, bon, le fin avril, on est encore bien dans la retraite.
Tout au long de ce temps de carême, nous avons rencontré, là où elles vivent, dans cette maison accrochée à la colline, comme on peut le lire sur leur site, la communauté toulousaine des Sœurs du Cénacle. Une communauté implantée à Toulouse depuis un siècle et qui, mandatée depuis sa création par le diocèse, participe largement à sa vie et à celle des paroisses. Tout au long de ces 40 jours, à l'écoute de la parole de Dieu, soutenue par Marie et conduite par l'Esprit, nous avons cheminé avec elles. Nous avons découvert leur histoire, leur spiritualité, leur charisme et leur mission, notamment auprès des jeunes, des personnes en grande précarité, des catéchumènes et plus particulièrement au travers de 3 de leurs propositions d'accompagnement et d'écoute. Retraite dans la vie, le Sénat Club et les Lundis pour Dieu. Je vous propose aujourd'hui, en ce mercredi saint, de retrouver Sœur Françoise, Sœur Chantal, Sœur Odile et Sœur Bernadette, absentes en ce moment pour cause de maladie, mais qui n'en restent pas moins pour autant partie intégrante de la communauté. Avec elles, le temps d'un reportage, nous entrons dans ce mystère du Cénacle.
Le mystère du Cénacle, il habite effectivement toute notre vie, parce que c'est ce mystère-là, qui est le mystère de Marie au Cénacle, qui est avec les disciples et qui appelle l'Esprit Saint pour sur le monde. Donc notre mission, elle est à la fois de faire connaître et aimer Jésus-Christ, parce que c'est notre vocation, mais aussi de parcourir le monde pour le faire connaître au monde. Voilà. Et c'est ce mystère-là qui nous habite, parce que nous invitons les retraitants, les jeunes et les moins jeunes à vivre une expérience de prière et de rencontre personnelle avec le Christ pour aller annoncer le Christ au monde, à notre monde d'aujourd'hui, avec les mots d'aujourd'hui et avec les moyens d'aujourd'hui.
Nous venons d'appeler l'Esprit Saint, de fait, et dans ce refrain, il y avait le terme « feu ». Et c'est cette parole que nous avons sur nos croix. Je suis venu allumer le feu sur la terre et comme je voudrais qu'il brûle. Voilà. Et je crois que c'est cette passion du feu de l'esprit, du feu de la parole à propager sur toute la terre qui nous habite.
Je crois que quelque part, c'est effectivement le besoin des personnes qui viennent vivre une expérience spirituelle à travers des retraites ou même des accompagnements, c'est de venir se ressourcer auprès du Seigneur et voir la place du Seigneur dans leur vie, mais dans un moment un peu reculé. Et c'est pour encore mieux repartir effectivement vers leur vie de tous les jours. Et le monde pour eux, c'est pas quelque chose d'abstrait, c'est vraiment leur concret. Et du coup, animés par ce qu'ils ont, ce ressourcement qu'ils ont vécu, ils vont vivre leur vie. Alors, en annonçant le Christ, ou quelquefois peut-être pas, parce que c'est pas dans tous les lieux qu'on peut le faire, mais voilà, quelque chose qui les anime dans leur quotidien.
Et avec la présence de Marie au quotidien.
Voilà, parce qu'effectivement, quand on replace ça dans l'Évangile, Marie au Cénacle, nous sommes après la résurrection, après l'ascension, Jésus qui monte au ciel et qui promet cette force à ses disciples qui restent sur terre. Donc avec Marie avec les disciples, sont là à l'écoute de cet esprit, l'appel de cet esprit pour pouvoir aller porter la bonne nouvelle. Donc nous sommes dans ce temps qui juste précède Pentecôte, puisqu'on va recevoir le Saint, mais qui suit l'ascension. Voilà. Donc on s'en met plein le mystère de Pascal et le mystère de Pentecôte.
Voilà, et c'est le mystère de l'Église, parce que c'est la naissance de l'Église. Donc, une sœur disait, je trouvais ça très beau, c'est le mystère du Cénacle qui reprend tous les mystères de la vie du Christ. Et je retrouvais une parole qu'on a évoquée à notre dernière assemblée aussi, pour essayer de redire autrement le charisme du Cénacle. C'était la mission du Cénacle, c'est nous travaillons à la transformation de notre monde par l'éveil et l'approfondissement de la foi avec et pour les gens de notre temps. Si les cœurs sont transformés, c'est celle qui nous guidait, j'ai oublié le nom, pendant l'assemblée,
Sylvia,
qui disait « Vous travaillez sur les cœurs ». Et ça m'a beaucoup touchée.
Et sur le nôtre en premier.
Et c'est vrai que c'est... On ne peut transmettre aux autres que ce qui nous habite aussi nous-mêmes, quoi. Et c'est ce qui peut jaillir de notre expérience, de notre... qui peut, après, permettre aux autres d'essayer de vivre cette expérience-là aussi.
Ce qui veut dire une très grande unité de vie entre notre propre prière et relation au Christ et notre mission. C'est complètement lié, ce que vient de dire Odile, c'est complètement lié. Et donc ça crée une unité intérieure aussi.
Il y a tout un travail de chaque jour pour tendre vers cette unité de vie.
Tout à fait, tout à fait. C'est pas acquis d'avance.
Dans la tradition spirituelle héritée de saint Ignace de Loyola et introduite dès les origines de la congrégation par les fondateurs, sainte Thérèse Coudert et le père Étienne Terme, les sœurs de la communauté de Toulouse, dans l'esprit des exercices spirituels de saint Ignace de Loyola, proposent chaque année une retraite dans la vie. Une retraite pour quoi? Pour qui? Comment? Réponse avec quelques retraitants. Il est un peu plus de 16 heures, un lundi du mois de mars, et c'est la fin d'une rencontre.
Pour moi, c'est un moment de grâce. Voilà, on a vécu quelque chose de beau et une expérience aussi qui nous bouge un peu, qui nous fait réfléchir.
Pour moi, ça a été un point de rencontre avec quelque chose que je n'ai pas vu au cours de ma vie. Et je trouve que c'est un point essentiel, bien que j'ai dû le pratiquer, mais pas dans cette conscience dans laquelle on pratique cette retraite. C'est un enseignement très riche, des exercices très simples de la vie courante, et d'intégrer cet aspect-là de cette retraite au quotidien de ma vie, au bout du chemin presque. Encore, j'espère, un peu de temps pour le pratiquer, le vivre et le transmettre peut-être aussi.
Alors moi, c'est une découverte, parce que je ne suis pas catholique pratiquant régulier. Et là, je suis immergé au fur et à mesure, on en est à la moitié, là, ça serait un petit peu comme une randonnée, où au fur et à mesure, je découvre de nouveaux paysages, des nouvelles manières de voir, et c'est réjouissant, c'est l'impression aussi de nettoyer des vieilles choses, de représentations que j'ai de la tradition catholique telle que je l'ai connue dans mon enfance et dont je me suis éloigné dès que j'ai pu. Là je retrouve de la vie, de la joie, des gens... des échanges, c'est une découverte pleine de surprises. Je suis très content d'être là. Ça fait un bon moment que je tourne un petit peu autour. Oui, une espèce d'appel. Je me suis dit, là où tu vas, où tu continues à réfléchir sur si tu pourrais y aller, quoi. Et donc, j'ai envie vraiment de vivre une expérience de pratique. Pas solitaire.
C'est à la fois une découverte très personnelle, mais en même temps communautaire.
Oui, c'est ça. C'est l'alliance un peu, entre le chemin personnel. Je trouve que l'image de randonnée donne bien, parce que c'est être en groupe et en même temps avec soi, quoi, avec soi et voir plus grand que soi.
Monique, vous, comment vous êtes retrouvée ici?
Moi, je me suis retrouvée ici tout simplement parce que j'étais à la messe à Colomiers et au fond de l'église, il y a des prospectus qui proposaient cette retraite. Et tout simplement, j'en ai pris un. Je devais le prendre, voilà. Et me voilà ici parce que je suis peut-être à un moment de ma vie où j'ai besoin d'avancer. J'ai besoin d'avancer, de me comprendre personnellement et de voir ce qui cloche, quoi.
Avancer et peut-être faire le point, peut-être.
Oui, avancer dans ma vie, faire le point, discerner, puisque le travail de la semaine dernière, c'était le discernement. Discerner ce qui est bon pour moi et ce qui est moins bon pour moi. Je ne sais pas, ça, c'est très près l'un de l'autre. Hein. Le bon, le beau, le bien, le mal, voilà.
On bascule vite d'un côté.
On bascule vite et comme on dit que l'enfer est pavé de gens qui avaient toujours de très bonnes intentions. Donc, ben, je ne voudrais pas me retrouver là. Je cherche à comprendre.
Et pour vous, Solange, ce temps de rencontre là, tous les 15 jours, il n'y a pas que ce temps de rencontre, je sais qu'il y a un accompagnement aussi personnel. Mais pour vous, ce sont des rendez-vous qui sont devenus des pivots aujourd'hui dans votre vie?
C'est ça, oui. Ce qu'on n'a pas tout à fait bien compris dans certains textes, exercices, on peut être accompagné dans ce sens-là et puis nous laisser tout le temps aussi dont on a besoin pour assimiler. Mais la régularité de se replonger dans ces réflexions, c'est important de pratiquer, de revenir, de faire à soi quelque chose qui nous dépasse. Mais petit à petit, on s'aperçoit qu'on adhère à cette compréhension dont on est fait au fond de nous-mêmes, mais où la vie ne nous a pas trop laissé le temps, ou l'éducation, tout dépend dans quelle famille on a été hébergé, on a vécu.
Et des parcours de vie de chacun.
Des parcours de vie de chacun, oui, c'est important de revenir à soi et ce qu'on a fait de sa vie.
C'est une retraite dans la vie. Alors, retraite, je comprendrais bien. Vie, je comprendrais bien aussi. Mais les deux à coller, retraite dans la vie, qu'est-ce que ça donne?
Ça donne justement cette immersion, retraite. Moi, je vois bien le retraite, on se met en retrait, mais après un moment ou un autre, le retrait est terminé et on retourne dans la vie. Et ça fait des fois un grand écart. Et là, l'écart est réduit, quoi. C'est-à-dire qu'à la fois, on vit la retraite, on a ces moments qui sont rythmés, qui sont très bien rythmés, quoi. Une fois, ping, le tempo, là, une fois tous les 15 jours, plus. Donc il y a ce rythme qui est ce cadre, l'horaire qui est bien réglé, tout ça. Donc tout ça, ça donne un cadre dans lequel il y a beaucoup de liberté, de possibilité de cheminer vraiment dans la vie, quoi. Hein, parce que là, je vais rentrer, je retrouve ma famille,
cheminer,
et ça va continuer à travailler avec les éléments de la vie, quoi. Hein.
Là, on vit notre quotidien, on vit. On espère changer quelque chose, on est dans l'espérance de devenir meilleur, parce qu'il faut parler de l'espérance quand même. Mais on est toujours rattrapé par ces vieux démons et le travail, il est là. Le travail, il est là, c'est les faire sortir, déjà les voir. Et ensuite, avoir des aides pour les combattre.
La retraite, elle est un retrait, mais aussi un écho dans la vie après. Cette notion d'écho, ce que tu disais, de vivre, ben, on va repartir dans la vie, dans notre vie, mais on a cette retraite comme point d'achoppement pour
remettre un point d'ancrage.
Voilà, un point d'ancrage.
Un rendez-vous avec vous.
Voilà.
Sœur Françoise, Sœur Chantal et Sœur Odile accompagnent donc dans la vie courante un grand nombre d'hommes et de femmes qui souhaitent relire leur vie sous le regard du Christ et l'orienter vers lui. L'accompagnement spirituel, c'est là l'une des missions essentielles des Sœurs du Cénacle. Des rencontres qui les bousculent, les revivifient elles-mêmes.
Chacune de nous, on a beaucoup de personnes que nous accompagnons. Ça peut être par vingtaine, il y a beaucoup d'accompagnement, et à chaque fois que je quitte quelqu'un, je dis merci. Et c'est pas une formule, c'est que à chaque fois que je rencontre quelqu'un, j'ai vraiment le sentiment d'avoir beaucoup reçu, d'abord d'avoir reçu la confiance des personnes, d'avoir reçu des choses très très intimes souvent et très personnelles, et ils nous donnent cela, mais aussi ils nous donnent leur désir, ils nous transmettent leur désir de connaître davantage le Christ, d'en vivre davantage. Et ce désir qui les habite, ou parfois ces expériences de prière qu'ils ont vécues, qui me dépassent complètement. Et vraiment, ce sont des cadeaux que nous recevons. Moi, ça m'impressionne beaucoup. Et quand je dis merci quand ils partent, c'est tout à fait vrai, c'est du fond du cœur.
Ils sont exigeants, ces chercheurs de vérité, vérité avec un grand V.
La plupart, je ne sais pas s'ils cherchent un grand V. En tout cas, ils essayent de conformer leur vie à l'Évangile, la plupart. Hein. Ils ne sont pas tous comme ça. Il y a ceux qui sont vraiment en marge quelquefois. Mais moi, la plupart des gens sont quand même des gens qui cherchent à conformer leur vie. Je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai envie d'accompagner une personne qui elle-même accompagne. Et pour répondre un peu à la question de ce que nous apportent tous ces gens-là. Et elle me disait... Elle participe à un fameux, une semaine de prière accompagnée, donc tous les jours elle accompagne quelqu'un. Et puis elle me dit, j'accompagne quelqu'un pour laquelle la prière d'alliance, qui est une prière ignatienne, est très importante pour elle. Comme ça. Et puis elle se tourne vers moi, elle me dit, mais moi, je ne suis pas très fidèle à ma prière d'alliance. Il faudrait peut-être que je m'y remette. Vous voyez, c'est les personnes qu'on accompagne d'une manière ou d'une autre, des conseils qu'on leur donne, peut leur donner, si on leur donne des conseils, ça, elles nous renvoient, nous, à nous font grandir. C'est toujours la même histoire. Eux, ils viennent nous partager le point de leur prière, ce qu'ils en sont, le pont à la parole des touches. Et puis nous, on le reçoit, on l'accueille et ils nous transforment. On est vraiment, je crois que l'accompagnement, c'est une école d'humilité. Et notre fondatrice était une grande humble. Oui, notre juste place, elle est là à l'écoute pour pouvoir transformer. Et nous transformer en premier. Je veux dire, le chemin, ce n'est pas les autres qui le font, c'est nous aussi pour nous, pour grandir dans notre foi. Donc oui, elle nous vivifie, elle nous encourage, c'est pour nous notre mission. Hein.
Sœur Odile, l'accompagnement, c'est d'abord l'écoute. Hein. L'écoute, et est-ce que ça s'apprend aussi?
Je ne sais pas si je dirais le mot apprendre, oui, d'une certaine manière. Mais enfin, je crois que c'est oui, ça s'apprend, et en même temps c'est quelque chose qui se vit avec l'expérience. Alors moi, j'aurais plutôt envie de parler de l'accompagnement aussi des catéchumènes, et là c'est pareil, c'est quand on évoque on leur apporte quelque chose parce qu'on est censé leur faire découvrir le Christ qu'ils ne connaissent pas forcément, mais en même temps, à travers leur découverte, ils me font aussi découvrir quelque chose de ma foi et ils me revivifient. Moi, je me dis, j'ai été baptisé bébé, je veux dire, je ne l'ai pas vraiment choisi. Eux, à travers le choix qu'ils en font, je veux dire, ils peuvent m'interpeller en me disant, mais est-ce que ma foi, depuis que je suis toute petite, est-ce qu'elle est aussi vivante que la leur qu'ils sont en train de découvrir? Et c'est dans ce sens-là où... l'écoute peut faire grandir aussi. Alors oui, ça peut peut-être faire progresser ou changer ma manière d'écouter. Et en même temps, c'est effectivement à travers l'écoute qu'on peut faire et ce qu'on peut essayer de transmettre aux autres qu'on apprend quelque chose pour les autres, mais aussi pour soi-même. Quoi.
Changement d'ambiance, mais pas de lieu. Nous sommes toujours rue Lucien Cassagne, chez les Sœurs du Cénacle. Et ce soir, c'est Cénaclub, une soirée pour les jeunes pros. Et ce soir, c'est un pro théâtral.
Il était une fois dans la forêt profonde.
Trois lutins qui partaient chercher des pommes.
Ils sont arrivés sur un grand arbre, mais les pommes étaient tout en haut et il a fallu monter très tout en haut de l'arbre.
Mais les lutins auraient dû déjà se douter. C'était un mauvais plan puisque les pommes ne poussent pas en forêt.
Heureusement, entre-temps, des singes arrivent.
C'est ainsi qu'ils rencontrèrent l'esprit de la forêt.
Cet esprit leur souffla de courir à toute allure, de fuir cette forêt jusqu'au moment où ils verraient l'horizon.
Un peu plus tard, avec Noélie et Camille.
C'est un espace en fait ouvert pour passer un moment convivial autour d'une activité une fois par mois. Et qu'on vienne du milieu chrétien ou non, en fait, le but c'est d'avoir un espace ouvert et convivial pour vivre un temps fraternel.
C'est à la base une salle de catéchisme qui n'était pas utilisée depuis plusieurs années. Et du coup, quand on a monté ce projet, les sœurs nous ont gentiment proposé de faire de cette salle notre lieu repère pour le Sénat Club. Et donc, on l'a repeinte, on a acheté des meubles, on a construit des meubles, on a construit un bar et aménagé des lumières, de la déco pour faire un lieu accueillant.
Oui, vous êtes ici chez vous, vous êtes approprié les lieux.
Bah, c'est pas chez nous, mais...
Oui, mais les sœurs, ils sont invitées.
Oui, alors elles sont chez elles quand même, mais disons qu'elles nous ont laissé vraiment toute liberté pour l'aménager comme on souhaitait, et c'est assez chouette de l'avoir investi, oui.
Et pourquoi ce lieu, justement, ici, chez les sœurs du Cénacle ?
Alors, en fait, c'est une demande des sœurs qui venait des sœurs. Nous, on fréquentait les sœurs sur d'autres choses et elles nous ont invitées, on était un petit groupe de 10 personnes à peu près, pour réfléchir à l'avenir de la communauté et à des initiatives qui pourraient naître de nos parts à tous pour faire connaître les sœurs, faire vivre, inviter des gens, voilà, et construire quelque chose autour de ça. Et du coup, on s'est inspiré de choses qu'on avait vues ailleurs, pour proposer aux sœurs ce projet, et elles ont adhéré tout de suite et elles nous ont beaucoup soutenues et elles sont là tout le temps et en fait elles sont vraiment au cœur du projet. C'est pas quelque chose qui est né ailleurs et qu'on aurait implanté ici, c'est quelque chose qui est né avec elles et qu'elles font vivre autant que nous. Il y avait une vraie volonté de rencontre, donc c'est pour ça qu'on a axé les choses sur l'accueil, parce que vraiment le but premier c'était ça, c'était de pouvoir accueillir des gens de partout et que tout le monde se sente bien ici. Et en fait, c'est le cœur de notre mission ici, c'est créer du lien. Et donc, autour de ça, bah, on organise des activités, on organise des rencontres, et chacun découvre un peu des talents de chacun, des voyages. C'est très varié, mais vraiment, le cœur du Sénat Club, c'est le lien, c'est la création de liens.
C'est spirituel aussi, parce qu'on a quand même ce temps de prière au début pour ceux qui veulent. Et ça apporte aussi, ça ancre davantage... une dimension de foi partagée qui est assez chouette aussi entre nous. Le temps de prière qui initie un peu ce moment permet aussi de baser cette soirée sur une dimension spirituelle, en partageant notre foi aussi avec d'autres.
Oui, tout le monde est accueilli.
Oui, c'est ça. Ouais. Donc, c'est au choix. Si on veut venir juste pour la soirée, on vient à 20h. Mais si on veut vivre le temps de prière avec les sœurs, on peut venir à 19h30. Partager un temps simple, vraiment, c'est pas long. Mais moi, j'y trouve beaucoup de sens aussi par rapport à ce qu'on fait ici. C'est dans la continuité un petit peu de ce temps-là.
Alors Sylvain,
vous êtes un des piliers du Sénat Club.
Alors pilier non, parce que je n'ai pas participé à la création du Sénat Club, pilier dans le sens peut-être participant. Mais voilà, je connais les propositions des sœurs du Sénat, notamment avant il y avait d'autres propositions qui étaient faites, et c'est aussi un peu de là qu'est venue l'idée de faire le Sénat Club en fait, qui a été créé... pour la personne de Nathalie. Donc il y avait notamment des après-midi jeux qui étaient organisés à une époque.
Qu'est-ce qui s'y vit ? L'esprit de ce Sénat Club ?
Alors l'esprit, pourquoi ? Qu'est-ce qui nous anime ? C'est la convivialité, la chaleur. Enfin voilà, c'est un lieu chaleureux, voilà. Convivialité, lieu chaleureux, échange, voilà, on vient comme on est, pour reprendre une marque célèbre. Voilà, c'est un lieu d'échange, on se pose après une semaine de travail plus ou moins facile en fait, selon les périodes. On échange, on découvre de nouvelles personnes, ça permet aussi d'échanger sur un peu ce qui se vit au niveau du réseau chrétien de Toulouse, des jeunes pros. Donc voilà, comme j'expliquais tout à l'heure, moi je suis responsable de la partie Montagne et Prière, donc qui est l'association pour les randos, donc ça me permet aussi de parler de cette proposition. Comme d'autres personnes qui viennent ici viennent parler de leurs propositions. Et voilà, ce qui est aussi intéressant, c'est que chacun vient apporter une compétence un peu, une activité artistique ou une activité manuelle. Enfin, les deux d'ailleurs sont
culinaire,
compatibles.
Sont très bons.
Culinaire aussi, voilà, chacun ramène aussi certains cuisines, d'autres ramènent des choses toutes faites. Moi, je suis plutôt dans le deuxième clan général. Voilà, après ce qui s'y vit, c'est des activités. Là, comme on va voir ce soir, une activité au théâtre impro.
L'impro théâtrale avec qui ?
Samuel. Alors, je suis là pour la deuxième fois, puisque j'étais venu pour la première fois le mois dernier, en février, donc, et on me proposait qui avait donc des choses à proposer en fonction de son talent, de ses qualités, de ses loisirs. Et donc, il se trouvait que j'avais fait beaucoup de théâtre, j'ai fait deux ans en cours Florent, j'ai beaucoup l'improvisation. Donc, je me suis proposé pour faire un atelier d'improvisation théâtrale pour cette fois-ci. Et ça a bien pris, les gens sont plutôt motivés apparemment, donc on va voir ce que ça va donner ce soir.
Donc, vous êtes venu pour la première fois, c'était il y a un mois à peu près, ça. Qu'est-ce que vous avez vécu à ce moment-là ?
J'ai vraiment senti une rencontre, on peut dire. Et même si je ne connaissais personne, pour ainsi dire, à ce moment-là, aucun jugement et une prise en considération de qui on est, pour ce qu'on est, et justement de vouloir cheminer ensemble et de faire quelque chose ensemble. Et c'est assez beau, et comme ce qui a été dit juste avant, oui, c'est assez rare de nos jours pour les jeunes. Et bon, on peut dire que c'est un peu triste, mais heureusement, on est là.
Il y a une solitude ?
Oh oui. Oui, je pense... Dans la jeunesse française, même en Occident en général, il y a une solitude qui se fait. Ça se fait depuis quelques années, mais je pense que le Covid n'a pas arrangé les choses. Et depuis, ça ne s'est pas forcément arrangé. Mais j'aime bien cette citation. Il y a encore quelques étincelles d'espoir dans ce abattoir barbare qu'on appelle l'humanité.
En dépit des réseaux sociaux, on a l'impression d'avoir des tas d'amis. Mais
l'humain,
oui, l'humain, ouais.
L'humain reste, oui. Et ça, on ne pourra jamais le remplacer par un écran. Ça, ça peut être un bon outil, puisqu'il y a des réseaux sociaux qui permettent de renseigner sur justement les soirées du Cénacle, mais il faut s'y rendre. C'est-à-dire, il faut quelque chose d'humain, il faut un rapport, un contact. Ça, on s'en rend de plus en plus compte aujourd'hui que c'est vital. On est des êtres sociaux.
Au fil du reportage, nous découvrons peu à peu l'apostolat des sœurs du Cénacle. Révéler et faire aimer Jésus-Christ par l'éveil et l'approfondissement de la foi à des personnes qui cherchent un sens à leur vie ou qui cherchent Dieu sans le savoir. À d'autres également qui veulent cheminer dans leur vie chrétienne ou discerner leur vocation. Mais comment Sœur Françoise, Sœur Chantal et Sœur Odile ont-elles même entendu un jour l'appel ? L'appel à rejoindre la congrégation des Sœurs du Cénacle. Comment ont-elles discerné ?
Pour moi, c'est très simple, c'était un coup de foudre pour le Christ, en particulier pour la découverte, à travers deux retraites, la découverte de la liberté du Christ. Un Christ qui est libre de lui-même, qui est libre de sa réputation, qui est libre dans ses relations, qui est libre dans tout ce qu'il vit. Et ça m'a complètement bouleversée. Et je me suis dit, c'est pas possible que les gens ne connaissent pas ce Christ-là. On nous a montré un Christ plein d'interdits. Il fallait surtout pas faire ceci, pas faire cela, etc. Alors que c'est un Christ de grande liberté.
Mais la liberté est exigence.
Bien sûr. Il faut savoir pourquoi et pour qui on veut vivre. Et orienter... Alors ça, c'est un travail de longue haleine, orienter tous nos choix vers... Et c'est ça la liberté, c'est choisir ce qu'on veut vivre et pour qui on veut vivre.
Sœur-Françoise, hein. Alors moi, par rapport à la liberté, moi, je suis rentrée au Cénacle, moi, j'étais très engagée en église au niveau des jeunes. Et pour les accompagner humainement et spirituellement. Et quelque chose qui me travaillait de l'intérieur, c'est voilà, consacrer ma vie au Seigneur, mais de quelle manière, avec tout ça. Et ce qui était assez déterminant pour moi, c'est de faire une retraite ignatienne. Et c'est grâce à cette retraite que j'ai d'abord trouvé peu à peu avec les sœurs du Sénat qui m'ont accompagné, une manière de prier qui est assez unique et qui me mettait dans la scène, qui me permettait de visualiser, d'être vraiment de l'intérieur de la prière et d'optimiser ma manière de rencontrer le Christ et l'Évangile. Et ces retraites ignatiennes, justement, m'ont permis de faire le choix, de faire ce choix-là. Moi, en premier, de faire un choix et de suivre le Christ de cette manière-là, qui est une manière à ma guise, voilà. Et c'est peut-être ça aussi, quand j'accompagne des jeunes ou quand j'ai des moins jeunes, de me dire, je veux aider ces gens-là, ces jeunes-là, à être des femmes libres, des hommes libres, et des témoins de Jésus-Christ. Voilà, c'est quelque chose qui a été assez déterminant pour moi. J'ai découvert vraiment une rencontre personnelle avec le Christ qui m'appelait et qui m'appelait à vivre de cette manière-là mon chemin de foi. Et c'est cette beauté-là de liberté, de suite du Christ que je souhaite voir reproduire dans tous les gens que j'accompagne et qui grandissent en liberté à l'écoute de la parole. Et la base déterminante de la Bible et de la parole de Dieu aussi.
Ça revient. Moi, je crois que ce qui est important, enfin, qui a pu me faire entrer, bon, c'est vrai que j'ai été touchée par notre fondatrice, Mère Thérèse, et à travers, en même temps, son humilité et aussi le fait qu'elle soit, voilà, on évoquait dans un reportage une fois, c'est un peu la sainteté au quotidien. Et c'est vrai que c'est parce que elle-même, et puis à travers les personnes qu'elle a pu rencontrer, c'est d'essayer de voir le Christ dans son quotidien. Et quelque part, je me dis, effectivement, à travers les accompagnements qu'on peut avoir, ou dans la retraite, dans la vie, ou la vie pour Dieu, c'est permettre aux personnes de trouver Dieu dans leur quotidien. D'ailleurs, la retraite dans la vie, ça dit bien que les personnes puissent trouver Dieu dans leur quotidien, avec ce qu'ils sont, etc. Les lundis pour Dieu, c'est aussi découvrir un passage biblique et que ça puisse rejoindre dans leur quotidien. Les accompagnements dans la vie, c'est aussi ils viennent avec ce qu'ils vivent et comment ils y voient la place de Dieu ou comment on peut les aider à l'y voir. Et voilà, cette intuition de l'importance du quotidien et de que chacun puisse y trouver Dieu, et c'est voilà faire connaître et aimer Jésus-Christ, mais à travers ce qu'on vit, quoi.
Et le lundi suivant est un lundi pour Dieu. Autour d'une grande table, Bible ouverte entre les mains, nous retrouvons sœur Odile, Christine, bibliste, qui animera la rencontre, et une petite dizaine de participants. Au fil des mois, ils emplissent leur cœur de la parole de Dieu.
Alors aujourd'hui, on va faire quelque chose de nouveau. Le 118, 119, oh là là. C'est bon, tout le monde là ? Il va comporter 167 versets.
Heureux les hommes intègres dans leur voie, qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux ceux qui gardent ses exigences, ils le cherchent de tout cœur. Jamais ils ne commettent injustice. Il marche dans ses voies. Toi, tu promulgues des préceptes à observer entièrement. Puissent mes voies s'affermir à observer tes commandements. Ainsi, je ne serai pas humilié quand je contemple tes volontés. D'un cœur droit, je pourrai te rendre grâce, instruit de tes justes décisions. Tes commandements, je les observe. Ne m'abandonne pas entièrement.
Pour moi, c'est le partage, parce qu'on travaille toujours en petits groupes, avec des Bibles différentes, et je trouve que c'est un approfondissement de la parole de Dieu. On apprend à connaître, à mieux connaître. Moi, je la lis d'habitude, mais là, on apprend à mieux approfondir, à mieux comprendre. Oui, en plus, on le voit sous des formes différentes en fonction des Bibles, et après, on partage ensemble, et je trouve que chaque fois, c'est très riche. Après, on peut le reprendre, le texte, on peut le reméditer. Moi, je n'ai pas été là, mais on me le faisait passer, je me le méditais toute seule, et c'est vrai que ça donne des pistes de prière aussi.
Pour vous, c'est vraiment aller à la source. Qu'est-ce que vous y cherchez ?
C'est-à-dire que Christine, elle nous explique vraiment, elle approfondit, elle va au fond des choses. Et je trouve que c'est vraiment, on voit qu'elle a travaillé dessus en plus. Quoi. Et après, il y a ce rôle pour le côté plus spirituel.
Le fait que chaque fois ce soit un texte différent, ça fait approfondir une parole ou une orientation que donne le texte et par lequel ça va nous rejoindre dans notre vie ou dans les autres passages de Bible que nous rencontrons. Mmh. Le dimanche, si on apprend, je sais pas, par exemple, on a eu regardé sur Noël ou etc., on a une autre orientation. On apprend à approfondir des mots. Oui, on le lit autrement. Mm-hmm. Par exemple, aujourd'hui, on a lu le psaume. Mais dans le psaume, on a retrouvé Dieu est tendresse, et etc. Mm. Mais ça a été dit autrement et ça se rejoint. Il y a la vie qui nous apporte avec tous les différents événements. Mm. Voilà.
Ce titre, les lundis pour Dieu, moi, ça m'a interrogé, ça m'a interpellé. C'est alors lundi, alors c'est pas tout à fait le début de la semaine, c'est le dimanche, hein, le premier jour de la semaine. Mais pour nous, on débute, on prend ce petit entre parenthèses qui va guider toute notre semaine. Ou...
Alors c'est la semaine, ça peut être le mois, ouais. Et puis c'est comme disaient les personnes, mais c'est qu'en fait, il y a quelque chose qu'on découvre sur le moment. Surtout, enfin, que ce soit aujourd'hui ou d'autres fois, c'est foisonnant d'éléments qu'on découvre et puis ça habite notre prière dans le mois qui vient et puis peut-être un an après on se souvient qu'on a dans un an, ah bah oui tiens le psaume 119 et puis on s'est laissé habiter et que c'est vrai que c'est pas forcément un temps de prière, même si on termine par un temps de prière, mais c'est quelque chose qui nourrit notre connaissance de la Bible et qui peut effectivement après nous habiter profondément dans notre foi. Quoi. Mais le but, c'est vraiment de creuser ce texte et puis de voir comment il nous parle et puis comment il nous nourrit aussi. Hein. C'est pas interdit.
Un temps d'enseignement, puisque c'est vous qui animez, Christine, qui animez ces
séances. Moi, je dirais plus enseignement, non, pas vraiment enseignement. Non. Moi, je donne mon opinion, puis vous prenez ce que vous voulez. Enfin, après, chacun cherche sa voie, chacun trouve sa voie aussi.
Donc là, c'est vraiment un partage.
Oui, c'est un partage.
C'est sympa.
Moi, je travaille avant et puis j'essaie de faire ce qui peut être le plus abordable possible.
Outre le Sénat Club, les retraites dans la ville et le lundi pour Dieu, les sœurs participent aussi d'une multitude de manières à la vie du diocèse. Accompagnement des catéchumènes, nous l'avons dit, présence auprès des jeunes et des personnes sans précarité. Au cœur de la ville, elle constitue cette présence particulière, celle d'une communauté priante aux portes toujours ouvertes. C'est d'ailleurs, et c'est ce que je lis toujours sur leur site, la définition même du Cénacle dans la Bible. Lieu de vie et de prière des disciples entre l'Ascension et la Pentecôte, lieu d'accueil des autres et d'attente de l'Esprit-Saint, lieu duquel on part pour annoncer Jésus. En ce mercredi saint et pour refermer ce reportage, je vous invite à nous retrouver dans l'oratoire de la communauté et de nous placer sous le regard d'un Christ en croix, presque détaché du bois. L'annonce d'un Christ glorieux, Sœur Françoise.
Et ce Christ en croix était dans notre première maison rue de Ville, parce que quand nous étions rue de Ville, ce Christ en croix, il était déjà là, et on l'a ramené dans cette maison-là. Voilà,
et il dit beaucoup d'ailleurs de ce que vous
dites. Non, parce que le monde a une place très importante dans notre vie. On ne suit pas le Christ pour vivre toutes les quatre entre nous. Bernadette, on a une sœur malade, mais pour vivre toutes les quatre, on dit pour annoncer le Christ au monde aujourd'hui tel qu'il est, dans la difficulté qu'il est, avec ses contingences, ses joies aussi, c'est comme ça. Mais pour que ce. Parce que ce que disait Chantal sur la transformation du monde, eh ben, on y participe d'une manière en permettant aux gens de se mettre à l'écoute de cet esprit et aussi de transformer le monde. Je veux dire, rien que ça. Hein.
Vous cherchez un sens à votre vie ? Vous voulez faire le lien entre votre vie et votre foi? Vous avez un discernement à faire? Les sœurs du Cénacle sont formées et envoyées en mission pour vous accompagner sur votre chemin intérieur. N'hésitez pas à les contacter à cénacletoulouse.fr.